À l'issue de celle-ci, le mouvement d'émigration vers la Palestine va s'intensifier et le nombre d'implantations sionistes augmenter. À la fin du mandat britannique, en 1947, la toute récente Organisation des Nations Unies prend la résolution 181. Elle comprend un plan de partition du territoire en deux États, un juif et un arabe. C'est l'origine de la solution à deux États. Mais le plan est rejeté par les nations arabes qui ne veulent pas d'un partage. En réaction, le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. Dès le lendemain de la déclaration, cinq pays arabes entrent en guerre avec le tout nouveau pays. Mais l'affrontement va tourner au profit d'Israël. Des centaines de milliers de Palestiniens vont être forcés à l'exode. 80% de la population, c'est la Nakba, la catastrophe en arabe. En 1949, à l'armistice, Israël contrôle un territoire beaucoup plus important que celui défini dans la résolution 181, mais l'hostilité des pays voisins est manifeste. En 1967, c'est à nouveau la guerre. Les mouvements des troupes de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et de l'Irak poussent Israël à l'action. En six jours, la victoire de l'État hébreu est totale. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le plateau du Golan sont occupés. La frontière de la ligne verte, la ligne d'armistice de 1949, est confirmée. La solution à deux États ressurgit en 1993 avec les accords d'Oslo. Ils sont scellés à Washington. C'est la reconnaissance mutuelle et l'apparition de l'autorité palestinienne qui gère une partie de la Cisjordanie.
We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears.
Nos deux peuples nous observent aujourd'hui et veulent donner une vraie chance à la paix.
Mais la colonisation se poursuit. Les tensions qui en découlent vont pas à pas vider les accords de leur substance. Plus récemment, en 2020, Donald Trump a lui aussi voulu être à l'origine d'une solution.
My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security.
Les contours de l'accord ne passent pas du côté arabe, surtout auprès des Palestiniens.
Nous vous informons ici que nous rompons toutes les relations avec vous et aussi avec les États-Unis. Nous avons dit la même chose à l'Amérique, y compris les liens sécuritaires.
À la lumière de la guerre qu'Israël livre au Hamas suite aux attaques terroristes du 7 octobre 2023, 142 pays, dont la Belgique, ont adopté la déclaration de New York portée par la France et l'Arabie Saoudite. Elle appelle à la fin de la guerre de Gaza et au règlement de la question palestinienne par la solution à deux États souverains et indépendants, vivant en paix côte à côte.
Pour réaliser cette séquence, on a été amené à réécouter intégralement les discours prononcés à Washington en 1993 d'Yitzhak Rabin et de Yasser Arafat. Et j'avoue que, à l'écoute de Yitzhak Rabin, j'étais assez émue parce qu'on se dit, mon Dieu, si je calcule bien, 25 plus 7, en 32 ans, il y a eu du chemin quand même. On est très loin de cette situation aujourd'hui.
Oui. C'est d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs quand même en appeler à l'histoire pour un peu voir quelles sont les responsabilités de tout ça. Je pense qu'il y a des acteurs internes et des acteurs externes qui ont joué. Parce que quand je vois quand même, je l'ai dit tantôt, mais le comportement de M. Trump aujourd'hui, c'est quand même c'est de la divagation extrêmement dangereuse. Enfin, cette imprévisibilité, moi, m'inquiète au-delà de tout. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, j'avais parlé, on n'en a pas encore vraiment abordé le sujet, mais la question de la poursuite de la colonisation, c'est quand même un élément qui est, qui est interpellant. Je veux dire que quand on voit l'accord auquel on a assisté ici, et puis qu'on voit ce qu'il est advenu de ces colonies, quand on, par exemple, Israël a financé, a subventionné l'implantation de colonies, je viens d'entendre il y a deux ou trois jours par rapport à ça les nouvelles promesses, si j'ose dire, de M. Netanyahou à propos des colonies, je dois dire qu'il y a un élément peut-être sur les colonies. Certains observateurs estiment que le règlement de cette question va être extrêmement difficile, même si on arrive à une situation à une solution à deux États, pour les faire partir dans le fond. Mais lorsque je lis quand même la réflexion ici de ce groupe de commandants pour la sécurité d'Israël, il semble quand même me dire que, oui, il y a une augmentation d'habitants ou de colons, plus par la naissance que par l'arrivée de nouveaux colons. Donc, il y a quand même un élément aussi, c'est que il y a certains colons qui sont là par intérêt financier, parce que l'État les subventionne, etc., et que la vie est moins chère. Donc, il y a des éléments, il y a beaucoup de nuances à apporter.
On discutera de cette question de la colonie dans un instant. Pierre Dargent, comment, dans la situation où on se trouve et où on voit que politiquement, même si la diplomatie s'active, etc., on est un peu coincé, est-ce que le droit peut, dans les circonstances où l'on se trouve, jouer d'une manière ou d'une autre? Parce que là aussi, on a quand même un sentiment d'impuissance. On sait qu'il y a toute une série d'affaires en cours devant la Cour internationale de justice, devant la Cour pénale internationale, mais ça ne change pas grand-chose.
Écoutez, le droit international dans ce conflit est central. Avant d'en parler, je voudrais rebondir sur ce que M. Michel a dit et les propos d'Itzhak Rabin. C'est d'autant plus émouvant de les entendre aujourd'hui que deux ans après ce discours sur la pelouse de la Maison-Blanche, il a été assassiné.
Ouais.
Par qui ? Par un extrémiste juif, messianique, et la voix très rationnelle également du général que vous avez proposé aux auditeurs.
Le porte-parole du CIS.
Le porte-parole. Toute cette rationalité-là, elle est évidemment totalement étrangère aux gens qui ont cette vision messianique, et cette vision existe de part et d'autre, évidemment, et pour lesquels le compromis territorial est impossible, et leur horizon temporel est complètement différent. Alors, l'enjeu de la reconnaissance, me semble-t-il, c'est de mettre les Palestiniens en situation de responsabilité. Le peuple israélien changera, on peut l'espérer, d'opinion lorsqu'ils seront convaincus que leur sécurité passe par un État palestinien qui est capable, sur son territoire, de contrôler les groupes armés, etc., etc. Mais en fait, Netanyahou, pour l'instant, est en train d'offrir aux Israéliens une autre recette qui consiste à dire on gagne des deux côtés, on n'a pas besoin d'État palestinien, et en plus, notre sécurité est assurée, regardez comment on domine et comment on domine dans la région, et c'est nous qui prenons l'initiative à tous égards au Yémen, en Iran, etc. Alors le droit international, pour y revenir, c'est évidemment la boussole de ce débat. On ne parlerait plus du peuple palestinien si ce peuple palestinien, en droit international, n'était pas un peuple qui a le droit à l'autodétermination. Et tous les États du monde sont tenus de respecter ce droit. La Cour internationale de justice, en 2004, l'a rappelé déjà, l'a encore rappelé pendant l'été 2024, dans des avis consultatifs très importants. Le territoire d'Israël existe, mais il existe uniquement dans les frontières de 48, dans la ligne verte qui a été franchie en 67. Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination s'exerce sur le territoire qui n'est pas le territoire d'Israël lui-même, comme l'a défini la Cour internationale de justice. Et bien entendu, cette reconnaissance qui est maintenant portée, elle doit se comprendre avec cet horizon. Ce n'est pas simplement... Alors le Kosovo, effectivement, on a une situation de reconnaissance d'État, mais le peuple du Kosovo n'avait pas le droit à devenir un État. Les Palestiniens ont le droit, en droit international, de devenir un État. Et plus de 150 pays l'ont déjà décidé. Et c'est cette réalisation-là qui est en cause. Alors le droit international est impuissant, oui, parce que concrètement, tout seul, il ne fait pas changer les choses, mais c'est ce droit international qui nous permet de dire que ce que fait que le débat sur la reconnaissance prolonge indéfiniment les violences d'aujourd'hui, qui sont bien plus pressante que le débat un peu théorique et à long terme.
Alors, le droit, c'est la boussole. Sur le terrain, on a deux acteurs qui ne semblent pas prêts à négocier quoi que ce soit. Vous l'avez mentionné, on a les États-Unis totalement imprévisibles, mais pour le moment toujours alliés indéfectibles d'Israël. Alors, l'Europe, Raoul Delcorte, dans ce débat, est-ce qu'elle peut quand même, même si on sait que les États-Unis ont une clé fondamentale, est-ce que l'Europe peut quand même faire basculer à un moment donné le rapport de force ?
C'est compliqué. J'ai été directeur Moyen-Orient, Afrique du Nord, et j'ai bien vu combien il était difficile à 27 de dégager une ligne commune sur le conflit israélo-palestinien. Alors, l'Europe a un accord d'association. L'Europe pourrait actionner le fameux article 2 qui prévoit que tant Israël que l'Union européenne sont respectueux des droits humains, etc. Mais sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il sera très difficile, voire impossible, à ce stade-ci, d'adopter des sanctions. Alors, individuellement, un État comme la Belgique ou d'autres peuvent sanctionner des individus, mais en tant qu'Union européenne, et la Belgique l'a fait. Très bien. Mais en tant qu'Union européenne, la voix de l'Europe n'est pas entendue. Alors, disons les choses comme elles sont et sous le regard de mon ancien ministre, mais je pense que les seuls qui peuvent véritablement influer sur le cours des choses, ce sont les Américains. La voix de l'Europe, en tant que telle, même du temps du fameux quartet, n'est pas entendue au Moyen-Orient, pas assez en tout cas.
Votre réaction ?
Je suis assez d'accord. J'ai été au cœur de tous ces débats-là, vous vous en souvenez d'ailleurs. À un moment donné, j'avais émis la possibilité d'interrompre l'accord d'association avec Israël. C'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'on m'a envoyé un Shimon Peres avec qui j'avais les meilleurs rapports, mais très en colère. Mais lui, il avait au moins une proposition à faire, c'était de renforcer économiquement la Palestine.
On rappelle quand même que les accords d'association, hein, c'est des accords entre l'Union européenne et Israël, des accords privilégiés qui sont notamment commerciaux, et c'est notamment au niveau commercial qu'on a un levier.
Je voudrais juste rappeler à cet égard, pour illustrer le propos de M. l'ambassadeur, à juste titre, c'est qu'à l'époque, justement, j'ai parlé tantôt de Béline, il y avait eu un accord entre, donc, des représentants israéliens, essentiellement d'ailleurs d'anciens militaires, et des représentants de l'autorité palestinienne. Et je dois dire que ça avait été endossé, c'était à deux doigts d'être endossé au Conseil européen. Chris Patten, qui était à l'époque en charge des affaires étrangères, qui était un Britannique, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, qui c'était un conservateur britannique, mais un homme assez remarquable, avait adoubé ça, et on était donc prêts à se battre là-dessus. Et je ne suis pas monsieur l'ambassadeur, mais moi je me souviens très bien, c'est un ministre des affaires étrangères allemand, assez connu, qui était un vert,
oui.
Un homme assez remarquable d'ailleurs, Joschka Fischer, oui. Qui a plombé, complètement plombé, hein, la réunion où l'Union européenne voulait endosser ce projet de paix qui était, je me souviens encore vaguement de ceux qui avaient participé à ça, et c'est d'ailleurs ça qu'on avait financé. Et ça a été flingué, hein, mais vraiment, par la ministre des Affaires étrangères, avec lequel j'avais de bons rapports, mais pour des raisons un peu comme celles qui poussent l'Allemagne aujourd'hui à ne pas reconnaître, en fait, l'État palestinien. Et donc, les mêmes causes ont amené les mêmes effets. Et ça montre simplement que ce que me dit monsieur l'ambassadeur, c'est effectivement une sorte d'impuissance européenne, parce que d'abord il y a le système, quand on doit prendre des décisions à l'unanimité, le système européen est extrêmement complexe, c'est évidemment difficile, mais enfin voilà, donc je ne crois pas que l'Europe puisse vraiment jouer un rôle. Oui, il peut jouer un rôle majeur au niveau des positions que l'on peut prendre publiquement, etc. Les dénonciations, etc. Ouais. Et les jugements.
Mais au
valeurs.
Point où là on est arrivé.
Non, on a beaucoup cru dans le quartet dont l'ambassadeur a parlé. Moi, j'ai beaucoup cru à la possibilité pour l'Europe de jouer un rôle majeur et, je dirais, positif. Mais on s'est vite rendu compte que tout le monde ne le voulait pas.
Mmh. On voit qu'il y a une pression diplomatique qui isole Israël. Il y a le droit international, il y a la rue, il y a des gens en Israël, et on l'a entendu, qui disent que pour des questions de sécurité, on va droit dans le mur. Malgré tout ça, ça continue. Est-ce que ça veut dire que, si on compare à nos archives, Didier Leroy, on n'est plus, en fait, avec les mêmes interlocuteurs aujourd'hui qu'à l'époque? Est-ce que c'est devenu une guerre de religion, pour poser la question autrement? Et à partir du moment où ça devient une guerre de religion, on n'est plus sur les mêmes arguments rationnels que pouvaient avoir, par exemple, un Rabin et un Arafat à l'époque?
Alors, c'est certain que le sionisme religieux a gagné du terrain ces dernières décennies. Ceci dit, on peut quand même relativiser aussi la poignée de main de 1993. Yitzhak Rabin n'était pas non plus le pacifiste naturel qu'on a tendance à imaginer. À l'époque, on décide de serrer la main avec Yasser Arafat parce que la menace iranienne vient de devenir une plus grosse migraine sécuritaire que les Palestiniens eux-mêmes. Donc ça, c'est l'échiquier géopolitique régional qu'il faut avoir à l'esprit à ce niveau-là. Mais donc... ici, pour paraphraser ce qui a été dit, Netanyahou vend désormais le rêve que l'ancienne équation où il fallait choisir entre le territoire et la sécurité, c'est de l'histoire passée. Mmh. On peut avoir les deux. Et donc c'est ça un petit peu...
Et il a l'impression qu'il a du temps devant lui, que c'est un projet à long terme, non ?
Mais pour le Premier ministre israélien, chaque jour qui passe, c'est une victoire. Il est, je pense, confiant qu'il pourra terminer son mandat. Et je le pense également confiant de sécuriser une réélection en 2026 s'il pousse suffisamment, encore une fois, le curseur du tout sécuritaire plus loin que tout ce que l'on peut imaginer. Et j'en prends pour indicateur le fait qu'il a régulièrement répété « ce n'est que le début ». Alors il a dit ça fin 2023, il a dit ça tout au long de 2024, il l'a encore répété il n'y a pas longtemps. Donc tout ce que j'ai déjà évoqué avec le Liban, la Syrie et peut-être in fine l'Iran peut aussi être dépassé à d'autres niveaux. Ces mêmes médias israéliens que j'évoquais là tantôt commencent clairement à s'attaquer de manière très frontale à deux acteurs pourtant en bonne relation avec Israël, c'est la Turquie et l'Égypte. Donc on peut imaginer que si Netanyahou se sentait véritablement sur la sellette au fil ou à l'issue des élections 2026, il pourrait vraiment acculer l'Égypte par rapport à l'échiquier à Gaza, voire s'en prendre directement à la Turquie, donc membre de l'OTAN, sur l'espace syrien, si la nouvelle équation ne lui convient pas. Tout est possible.
On a parlé des pressions européennes. J'aimerais que, par rapport aux États arabes que vous mentionnez, qu'on voit s'il n'y a quand même pas aussi des choses qui peuvent bouger de ce côté-là. Parce que parmi les gens qui reconnaissent la Palestine aujourd'hui, on a notamment l'Arabie Saoudite qui s'est engagée aux côtés du président Macron et qui a mené cette initiative. L'Arabie Saoudite qui est quand même aujourd'hui aussi un allié des États-Unis. Est-ce que les plaques ne peuvent pas aussi bouger à ce niveau-là? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être vous, Didier Leroy, puis je ferai aussi réagir Monsieur Dargent.
L'Arabie Saoudite est extrêmement mal mise, puisque c'est elle qui a essayé de cacher la cause palestinienne, ou en tout cas de faire passer la pilule d'un élargissement de l'alliance d'Abraham, comme on a parfois tendance à la caricaturer. Pour l'instant, évidemment, c'est une posture que MBS ne peut plus du tout arborer. Donc Mohamed il y a évidemment Salman, resserrage des coudes à l'échelle des acteurs influents de la région. Ça s'est notamment vu à travers le sommet arabo-islamique qui s'est tenu à Doha, directement après les frappes israéliennes au niveau du Qatar. Mais depuis lors, on a quand même un pacte de défense mutuelle qui a été signé entre Riyad et Islamabad, donc le Pakistan, quand même élément à garder à l'esprit aussi. Gros message envers l'Iran, au passage, mais pas uniquement. Et je pense que l'Arabie Saoudite joue le temps, puisque si quelque part la menace, enfin, l'acteur Hamas venait malgré tout à disparaître dans la foulée de quelque chose qu'elle se doit de condamner, ce ne serait quand même pas une mauvaise chose pour les projets économiques ultérieurs.
Pierre